On va démarrer la rencontre.
Eh ben oui, carrément, trop bien.
Donc, eh ben, bonjour Carole Trébor, merci d'avoir accepté cette réinvitation pour cette nouvelle audio-rencontre. Un grand bienvenue aussi à tout le monde présent aujourd'hui sur le vocal et sur le chat. Donc, voilà, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion, c'était je dis exactement, le 25 juillet 2020. Pour ceux qui veulent réécouter le replay, c'est sur mon site, christeldabos.com replay. Comme ça, si vous voulez entendre la première audio rencontre, parce qu'on va parfois y faire allusion, mais vous aurez ainsi accès. Et donc, bonjour Carole.
Salut Christelle, merci de m'inviter, c'est trop sympa. Trop chouette.
C'est toujours un plaisir pour moi. Et
Humilité.
c'est ce que j'expliquais hier ou ce matin sur le salon en question, que voilà, tu es vraiment une autrice qui me. Voilà, qui a joué un rôle très important dans mon parcours personnel. Tu m'as influencé positivement autant sur le plan de l'écriture. Tu as été de très bons conseils sur le plan de l'édition. Donc voilà,
Oui,
je
merci.
t'inviterai, je te réinviterai, je te ré-réinviterai.
Oh, c'est trop bien. Non, mais c'est
Voilà.
vrai, il y a une vraie fidélité, hein, depuis nos premières sorties, mine de
Voilà,
rien.
ben oui, depuis que nos
Oui, hein, on a
trajectoires se
sorti
sont
ensemble.
croisées, voilà, on ne se quitte plus.
2012, hein, 2012, je pense, 2000, nos
Ah
premiers
mais
tomes de.
je t'ai rencontré sur un de mes tout premiers salons. Donc voilà,
Montpellier.
ça a été ma grande chance hein, d'avoir cet ange gardien qui m'a donné
Ah.
vraiment beaucoup de bons conseils. À un moment, je découvrais un petit peu tout le milieu de l'édition.
Ouais,
Et
mais non, mais non.
du coup, je voudrais vraiment pouvoir voilà, profiter de ces audio rencontres pour voir un petit peu ton œuvre. Voilà, de mettre un petit peu à l'honneur, surtout que tu as une belle actualité, hein, donc on va le voir. Et c'est ce qu'on disait hier quand je t'ai eu au téléphone, une œuvre marquée par le fantastico-historique. Hein, c'est vraiment très très prégnant hein, dans ce que tu
Exactement.
écris, parfois dans l'historique tout court, avec la part belle faite à la Russie.
Exactement. La Russie, l'historique, le fantastique, c'est les trois gros aspects de mon œuvre. Je suis en train de m'inquiéter parce que j'ai. Voilà, attends. Ok, c'est bon. J'ai mon. C'est bon. Ok. Non, j'ai mon chargeur de batterie qui déconne.
C'est
Du
ça,
coup, si par hasard je
dommage.
disparais,
Je
ouais.
sais que pendant la
Il
première
est.
audio rencontre, on avait cessé de t'entendre et qu'il avait fallu que je t'appelle au téléphone.
Ouais,
Bon, de toute
voilà, c'est
façon,
ça.
les soucis techniques, ça arrive toujours, donc on ne panique pas si ça se produit.
Et ouais, voilà, là, je sais pas pourquoi je pense qu'il commence à se faire vieux, l'ordinateur.
Voilà,
Bref, en tout cas.
si un souci, il y a Camille qui chantera un petit interlude musical en attendant ta réconnexion.
Demande que je passe par le. Au pire, sinon, je repasserai par mon téléphone pour vous rejoindre de nouveau par le
Il
téléphone,
n'y a
tu
pas de problème, on s'adaptera, voilà, pas de stress quoi qu'il arrive.
vois. Parce que là, pour l'instant, mon chargeur de batterie, il a l'air cassé. Voilà.
Et là donc c'est la batterie de ton ordinateur.
C'est
Elle a
là, en fait,
une
c'est le.
autonomie de combien de temps?
C'est le chargeur de batterie. J'ai 24%, mais.
Bon, eh ben on va se
Mon
mettre en
chargeur.
route. On va aller d'un bon rythme.
On commence, et puis. Soit, parce que parfois, il se remet. Enfin, tu sais, je pense que c'est la fin. C'est le début de la fin de ce truc. Du coup, tu vois, parfois, il se remet, parfois, il s'arrête, mais j'ai du mal. C'est. Voilà. Évidemment, ça arrive toujours au même moment, genre de
Non,
truc.
mais ne t'inquiète pas, on s'adaptera, pas de stress. Au pire, on basculera sur ton téléphone. Ne t'inquiète pas pour ça.
Bon,
Du
bah
coup,
voilà, c'est ça.
je vais rentrer dans le vif du
Merci.
sujet.
Yael, elle veut entendre chanter Camille, donc c'est parfait. Merci,
Voilà.
Ça
Tu
m'enlève.
chanteras avec la voix de Thorne, hein, comme Camille fait très bien Thorne. Voilà.
Moi, je pourrais pas l'entendre en plus, parce que ça, si ça se passe, ça veut dire que j'ai plus du tout d'ordinateur.
J'enregistrerai, il y aura toujours des traces et des archives.
Voilà. Bien.
Alors,
Bon,
si
bah,
tu veux, on va
allons-y alors, comme
commencer
ça.
par vraiment l'aspect de ton œuvre fantastico-historique russe. Comme ça, on va commencer par ça. La dernière fois, on avait parlé d'Elina Volkovitch. Alors,
Oui.
juste pour rappeler un petit peu le résumé de l'histoire, hein, c'est la quête de Nina qui veut fuir l'orphelinat pour trouver sa mère emprisonnée dans un goulag de Sibérie. Et on avait
Oui.
aussi évoqué Lumière, le voyage de Svetlana. Svetlana qui quitte le Paris de Diderot pour rejoindre la Russie de Catherine II. C'est vrai que je m'étais dit que dans ces deux romans, il y avait la belle place faite à l'art, à la culture française et russe, une cohabitation d'un contexte historique bien documenté avec une dimension surnaturelle, dimension politique aussi. Et ça, c'était vraiment ta patte. Hein.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, j'aimais bien mêler les, voilà, ce que je disais, mêler les deux et faire en sorte que le fantastique soit vraiment lié à l'historique et soit nourri de l'historique, de faire surgir le fantastique, pas par hasard, quoi, en lien avec les icônes ou avec les dieux anciens de la Russie, enfin voilà, que ce soit très nourri de mythes ou de d'art spirituel en fait. En gros, c'était ça mon.
C'est ce que je disais, c'est que vraiment, c'est moi, c'est l'impression que j'avais eue la première fois que j'ai lu donc ben, le premier livre de toi, c'était hein, le premier Nina Volkovitch. Cette impression qu'on sortait vraiment des sentiers battus et que quand j'ai lu, je me suis dit, tiens, j'ai pas d'équivalent, je me dis, j'ai pas lu cette approche-là du surnaturel ailleurs, quoi. C'était pour moi, c'était assez unique. Là, sur
Écoute.
le chat, il y a Teddy Glamch qui demande s'il y a une mythologie russe.
Oui, bah alors justement, oui, effectivement, il y a une mythologie russe que j'exploite pour la première fois dans Lumière, le voyage de Svetlana, donc celui qui sort en poche, là, justement, le 3 novembre. Et la mythologie russe, elle est très peu connue parce que c'est une mythologie qui est orale seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte comme dans la mythologie grecque ou la mythologie romaine ou la mythologie même où il y a des hiéroglyphes pour la mythologie égyptienne. C'est une mythologie qui se transmettait oralement et on la connaît indirectement parce qu'en fait, on connaît la... Ah, trop bien, on connaît la mythologie russe par des textes de moines orthodoxes. C'est-à-dire qu'au moment où on a imposé l'orthodoxie en Russie, à la fin, dans les années en 990 par là, les moines qui ont imposé la Russie, l'orthodoxie, ont décrit les mythes païens, mais de manière assez négative. Et ils ont décrit comment ils ont détruit, comment on a détruit les temples, comment on a détruit les icônes païennes, les symboles païens, etc. Et donc on connaît cette mythologie via des textes, en fait, d'orthodoxes. Voilà, c'est comme ça qu'on la connaît. Et sinon, elle a continué après à se transmettre oralement, bah voilà, dans les chaumières, quoi. Les gens continuaient à croire aux dieux anciens et continuaient à aller, voilà, en fait, donner des offrandes à leurs idoles, etc. Parfois, les églises orthodoxes étaient construites sur les lieux des anciens temples. Et donc, on voyait des vieux croyants qui allaient déposer toujours parce qu'on offrait on offrait de la nourriture, etc., aux dieux anciens. Et sur le lieu des églises orthodoxes. Donc ça a mis du temps à s'imposer comme unique religion, en fait, l'orthodoxie. Et voilà, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on connaît un petit peu cette culture, et on la connaît après beaucoup par la culture orale qui s'est transmise un peu de génération en génération. Un peu comme pour les Celtes, avec des textes avec des textes quand même de prêtres chrétiens qui ont écrit sur le paganisme russe, en fait. Voilà. Et ensuite, les grandes icônes de cette mythologie, il y a Volos, il y a les noms des dieux de ces panthéons, c'est Volos, il y a Péroun, mais c'est pas forcément des dieux extrêmement connus, mais par contre, c'est des figures, il y a le dieu. Le dieu de l'orage, le dieu des voyageurs, la déesse des blés, de la fécondité. Donc ça reste des figures mythologiques qui incarnent, comme dans les autres mythologies, les choses fondamentales des hommes, en fait. Voilà, en gros.
Ah bah ce qui est
Oui, la
magnifique, c'est qu'en plus, tu vois comme tu vois les questions sur le chat, tu fais l'animation
bah,
toute seule.
c'est
T'es extrêmement autonome.
Oui, bah oui, parce que je vois, oui, c'est ça. Du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques ouvrages de spécialistes. Non, ma panique, c'est que je suis à 20% de trucs. Donc, je parle et en même temps, je me dis, dans 10 minutes, je sens que je
Quand
vais. Ça,
tu
je...
souhaites, on fera une
On
petite
n'a pas de
pause.
chance, hein. On
Voilà,
n'a
pour
pas de
voir.
chance que ça m'arrive là, mais bon, bref. Et du coup, voilà, après, donc c'est voilà, il y a quelques livres qui sont parus sur la mythologie russe. Et moi, dans les arts, en fait, dans Lumière, le voyage de Svetlana, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un extrait de ce fameux manuscrit d'un des moines qui a témoigné de la fin du paganisme en Russie, et dans lequel il cite justement Volos, Péroun, un certain nombre de dieux anciens du paganisme russe, en fait. Voilà. Comme ça, on voit le texte, un des textes qui décrit par écrit ces dieux. Voilà.
Et il y avait Reza qui disait, n'y avait-il pas une version BD hein, qui avait l'air magnifique de Lumière, le voyage de Svetlana?
Alors, ça c'est drôle, c'est prémonitoire.
Oui, bah,
Alors,
la question a été posée soit ce matin, soit hier, donc je l'ai mise de
c'est
côté pour ça.
drôle. C'est drôle, parce que justement, eh ben, il se trouve que Lumière, le voyage de Svetlana, va être adapté en BD chez Vent d'Ouest. Et c'est avec Sanoé, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une super illustratrice. Vraiment, j'aime beaucoup son travail. Christelle, je pense que je t'avais montré un peu ce qu'elle faisait,
Oui,
Sanoé. Tu
oui,
vois,
oui.
et donc c'est elle qui, voilà, bah voilà, tu l'as mis, elle
Eh
est trop
ben,
belle,
je suis là pour ça.
trop bien. Et donc c'est Sanoé qui fait les illustrations, c'est Lignan qui a fait l'adaptation. Là, c'est pas moi qui ai écrit le scénario pour le coup, et c'est en 2 tomes, et donc c'est très fidèle en fait. Hein, il a vraiment Lignan, il a vraiment suivi la narration du roman. Mais voilà, et ça promet d'être super beau parce qu'elle
En tout
s'est
cas,
lâchée vraiment sur
la
le paysage.
couverture envoie du lourd. Hein. Quand on voit la couverture, hein. Juste
Ouais, je trouve
un
que.
peu, je suis un peu désolée pour les personnes qui vont écouter le replay. Je les invite vraiment à jeter un œil sur le chat après coup, sur du Discord pour voir les images que je mets au fur et à mesure. Parce que voilà,
Ouais,
ça.
non, ouais, la couverture, elle est incroyable. Et en fait, moi, j'ai vu même des. Enfin, ils ont fait un truc avec des planches, etc. Et c'est magnifique, enfin, les planches, elles sont incroyables. Elle va être, cette BD, elle est géniale. Et on voit les scènes avec Diderot, enfin, il y a des scènes de voyage, et des paysages de Paris, des paysages des forêts de bouleaux qu'elle traverse. Et
Oh là là.
je pense qu'après le tome 2, quand il va y avoir vraiment la magie qui va arriver avec les dieux anciens et aussi la Russie, quoi. Je pense que ça va être incroyable, parce qu'elle va faire Sanoé, les paysages de Saint-Pétersbourg au XVIIIe siècle, ça va être incroyable. Ce paganisme était hégémonique sur tout le territoire russe, je me demande, parce que c'est un brin. Oui, en fait, c'était vraiment la religion, et c'était la religion dominante, c'était du paganisme sur les territoires slaves et russes, complètement. C'est à peu près la même mythologie sur ces territoires-là, sur tous ces territoires, sur la Russie, etc., et les pays autour, en fait, pour répondre à Bozzi. Et on a imposé l'orthodoxie en Russie et puis petit à petit dans les pays autour de la Russie, en fait, en gros. Voilà.
Voilà, comme tu m'as très gentiment fait découvrir en avant-première Maroussia, celle qui sauva la forêt. Voilà, là, ça fait partie aussi de tes nouveautés. On reste dans le folklore russe.
Oui, voilà, je veux dire, fin vers 900 1000. Je veux dire, entre,
On
voilà.
t'entend taper au clavier. Voilà, donc entre 950 et l'an 1000.
Oui, par là, c'est vraiment à ce moment-là. Après,
D'accord.
les choses se font progressivement,
Donc
mais
il n'y
en
a pas
gros,
d'orthodoxie en Russie,
en
d'accord.
l'an 1000, c'est sûr, voilà, ça y est, quoi. Je veux dire, le paganisme n'existe plus en Russie, ça c'est sûr et certain. Voilà. Après, ça se fait un peu progressivement, puis ça s'est pas fait que que dans la douceur, en fait. Malheureusement, ça ne s'est pas fait que dans la douceur, parce que ce genre de choses se font rarement seulement dans la douceur, quand on évite. Voilà. Et en gros, bah, en fait, la date précise de la conversion officielle obligatoire, c'est 988. Voilà.
988.
C'est Vladimir le Grand qui impose l'orthodoxie à la Russie. Ça passe par un tsar, parce que c'était aussi l'idée. Parce qu'en fait, le monothéisme, il est vraiment associé aussi au pouvoir. Au départ, et c'est aussi l'idée que le tsar est représentant de Dieu sur terre, et donc c'est associé aussi à l'appropriation par le tsar de cette religion qui lui donne une légitimité divine, en fait.
Oui.
Donc c'est le tsar Vladimir le Grand qui impose l'orthodoxie. Voilà, en gros.
Enfin, là, je pense que c'est vraiment bien de voir à quel point tu nous rends accessible cette partie-là de l'histoire qui, je pense, n'est pas toujours très bien maîtrisée. Elle n'est pas enseignée du tout. Donc, c'est
Oui, exactement.
vraiment, vraiment bien grâce à tes livres et là, en t'entendant en complément, c'est très, très
Oui, ben,
enrichissant.
parce qu'on connaît peu en fait la partie, le côté slave de cette histoire-là. Et je trouve que c'est intéressant de montrer aussi qui s'est passé du côté des Slaves, en fait. Comment l'orthodoxie s'est imposée dans ces territoires-là. Donc oui, ça m'étonne pas que ce soit très peu connu. C'est très peu connu en fait, hein. On connaît beaucoup mieux l'origine du christianisme européen. On connaît beaucoup mieux la fin des croyances mythologiques en Grèce. On connaît pas, hein. Effectivement, ça c'est sûr.
Et du
Mais là,
coup,
du coup,
c'est
le
vrai que
paganisme a duré plus longtemps.
tes livres à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils permettent vraiment de compléter.
Oui, là, je pense que oui, aussi Lumière, le voyage de Chétana, par exemple, quand on le lit, c'est une histoire complètement imaginaire, mais on apprend quand même. J'invente aussi des dieux, parce que je m'autorise toujours, tu sais, Christelle, ce truc de mêler le fantastique et le. Voilà. Mais on apprend des choses sur la mythologie russe, et surtout, à la fin, justement, je fais toujours des annexes pour montrer ce qui est la part des textes et de la réalité, entre guillemets, de cette mythologie, et ce qui est la part des dieux que moi je peux inventer, parce que dans ma fiction, j'ai envie et j'ai le droit d'inventer des dieux. En gros, c'est ça.
Ce qui est magnifique, c'est que du coup, tu as répondu à une question qu'on m'avait fait parvenir hein, de Alexandra. Comment gérez-vous l'équilibre entre la partie écriture pure et la partie recherche, par exemple, écrire en se basant sur un mythe? Là, du coup, bah, c'est parfait, tu réponds déjà aux questions qu'on
Bah
m'avait
c'est
posées.
voilà, c'est en fait, après, dans Lumière, il y a voilà, il y a les dieux anciens qui interviennent, certains qui font partie de la mythologie et du panthéon des dieux slaves, quelques dieux qui sont vraiment, qui deviennent très proches de l'héroïne, qui sont complètement inventés. Mais par exemple, tu sais, j'avais fait Gromislav, le gros géant
Je vais montrer la
voilà,
couverture.
qui couvre la terre pour une petite maison d'édition. Et en fait, là, dans Gromislav, c'est la réécriture d'un mythe par rapport à la question là posée. Où, en fait, Gromislav, c'est un géant qui a. Ah, super, t'es trop forte,
Mais
Christelle.
je suis là pour ça. Tu parles,
Et
mais je suis.
trop bien. Et Tristan Gion, donc, qui est le voilà, super illustrateur aussi. Et en fait, c'était chez Aleph, une maison d'édition qui s'était spécialisée dans les mythologies du monde. J'avais trouvé ça passionnant. C'est une toute petite maison d'édition. Et justement, je lui ai proposé. Oui, les illustrations sont incroyables. Et en fait, je lui ai proposé Gromislav parce que c'est en gros l'idée que dans la mythologie russe, il y a un très gros géant qui vient d'un peuple extrêmement violent, les Asilki, et lui était très pacifique. Et ce gros géant va sauver, en fait, a sauvé la terre et il est censé recouvrir entièrement la terre. Et donc, il faut faire attention à notre planète parce qu'il y a un gros géant sous nos pieds. Mais cette fin-là, en quelque sorte, c'est moi qui l'ai à ajouter, mais qui les transformait de façon à en faire une fable écologique aussi. Et par rapport à la question de l'écriture et de la réécriture des mythes, je pense qu'on part d'un mythe et on le réécrit aujourd'hui avec nos propres enjeux. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le mythe, en fait. C'est que l'enjeu écologique d'un gros géant qui couvre la terre, ça c'est moi, autrice aujourd'hui, qui décide de le mettre, en fait, de l'ajouter.
Oui, ça actualise les mythes et voilà, ça leur permet encore de se transmettre hein, de génération en
Voilà,
génération.
et de s'écrire et de se réécrire en fait au gré de voilà des enjeux et de ce qui est important aujourd'hui et de rappeler ben, tous les mythes aussi nourrissent et donnent une valeur et une valeur sacrée à notre planète en fait. Donc c'est ça aussi que je trouve précieux dans les mythes de cosmogonie que les hommes ont inventés sur la création du monde participent de la valeur qu'on peut donner à notre terre en fait. Et donc, je me dis, pour des enfants, par exemple, qui sont envahis de messages assez anxiogènes sur l'écologie et sur les drames qui possiblement nous attendent, si tu passes par l'image, la métaphore d'un géant qui recouvre le sol, qui est bienveillant, qui est pacifique et auquel il faut faire attention, bah, tu fais passer ce message-là, mais de manière plus douce, en fait, je trouve. Et
Et
donc,
ça humanise la planète.
oui, aussi, ça humanise aussi, ouais, c'est vrai, Et alors sinon après Chevalier Nyx Lumière c'est un seul tome, il n'y a que un tome dans Lumière
Voilà, c'est
en
pour la
fait.
bande dessinée qu'ils vont le faire en deux tomes pour Lumière, si j'ai bien
Voilà.
compris.
Et la bande dessinée, je pense qu'elle va être nickel pour les 8-14 ou les 8-15 ou les 9-15, enfin voilà, c'est comme Princesse Sarah ou comme Rose Écarlate. C'est
Ah,
ce je
petite
pense que
pensée pour
c'est ce
Patricia Li Fung, qui
ouais. C'est le même profil de BD pour moi que la
Ben
princesse
voilà.
Sarah ou Écarlate. Voilà.
Bon, bah, du
La
coup,
lumière.
je note qu'une prochaine audio rencontre, pour la sortie là, de la BD, hein, j'essaierai d'inviter toute la team avec Patricia et on va faire un truc complet, quoi. Il
Sympa,
y a
tu peux
matière, hein.
saluer.
Il y a matière.
Oui. Elle est hyper sympa, donc ça peut être très chouette aussi si, s'il y a Sanoé qui vient. D'ailleurs, j'ai pas encore vu pour l'instant, donc dans le premier tome, il n'y a pas du tout les dieux anciens et je suis très très
Ça va être
curieuse de
assez à
voir
ça, de voir ce que ça
comment
va donner.
elle va représenter les dieux, parce qu'elle a quand même une grosse responsabilité, elle va représenter les dieux anciens de la Russie dans le tome 2 de la bande dessinée.
Et vous avez
C'est pas rien, hein.
des échanges par rapport à ça?
Bah, pas tant que ça, parce que là, c'est pas moi qui fais le scénario.
D'accord.
Donc, je pense qu'elle est, tu vois, mais par contre, ils m'ont montré les crayonnés, etc. Mais je peux, là, je peux pas, tu vois, je peux pas intervenir
Oui.
énormément.
Tu
Plus, tu vois,
fournis la matière première avec ton roman,
c'est
quoi.
d'après le roman de Carole Trébor,
D'accord.
sur la couve. C'est Lilian Sanoé, d'après le roman de Carole Trébor. Du coup, j'ai pas, là, je vais pas m'imposer, rajouter une voix trop compliquée, enfin, les choses, tu vois. Donc on m'a, mais par contre j'ai vu le dossier, j'ai vu ses premières planches, je trouve ça génial
Ça
et
t'a
j'ai vu
convaincu.
de Lilian qui est très proche de mon histoire. Enfin tu vois, je me sens pas trahie par rapport à mon histoire.
C'est important.
Ouais, ils ont vraiment gardé le côté très historique aussi. Il y a la rencontre avec Diderot, ils l'ont vraiment gardé quasiment intégralement. Enfin tu vois, enfin c'est, ça reste vraiment proche du roman en fait, le travail
Ils
d'adaptation
restent
de.
proches du texte. Et ils vont donner après toute la dimension visuelle. Hein. Ça
Voilà,
peut être intéressant.
et puis on peut aussi se dire qu'une adaptation pourrait justement s'éloigner plus du roman parce que c'est une nouvelle œuvre à part entière et pour que ce soit vraiment bien, il faut s'en détacher totalement. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle, hein, je me dis, dans l'adaptation,
Bah, idéalement,
je
que ce soit
pourrais.
complémentaire, que ce soit complémentaire
Oui,
du
voilà.
roman.
Oui. Je pourrais tout à fait aimer une adaptation plus lointaine, très différente, qui emmène ailleurs parce que le scénariste l'interprète autrement. Tu vois, U4 va sortir aussi, va être adapté. Là, il sort en janvier, les
Ah
quatre
ben,
tomes, ils sortent
j'avais
en
cherché des informations justement, si vous voulez te poser la question par rapport à ça. Donc U4, que certains prononcent U4, hein, j'ai toujours les deux, hein, chaque fois qu'on m'en parle, j'ai toujours les deux prononciations. Mais bon, je
Oui.
m'alignais sur la tienne, hein, hein, tu as écrit quand même le roman, donc U4.
U4,
Et
c'est
donc,
Utrecht.
oui, bah oui, Utrecht, oui, d'accord. Et ils vont sortir donc en BD.
En janvier, c'est
Mais
fou,
c'est
hein?
bien
C'est
ça!
l'année des adaptations pour moi, en fait. C'est très étonnant. C'est vraiment le hasard, mais il se trouve qu'en janvier, il y a U4 qui sort en BD et en avril, il y a Lumière qui sort en BD. Étonnant,
Et
hein?
Chevalier Nyx qui dit qu'est-ce que U4, donc qui ne connaît pas, si tu sais juste,
Ah oui.
c'est la série apocalyptique écrite à quatre mains, mais alors là, je te laisse en parler, je pense que tu en parleras mieux que moi.
Ah oui, 4, c'était, bah, tu vois, sur Internet, en fait, c'était quatre romans écrits par quatre auteurs et chacun a son héros. Tu peux lire, les quatre tomes sont sortis en même temps, tu peux les lire dans l'ordre que tu veux et les personnages se croisent d'un tome à l'autre. Donc, tu as des scènes communes qui sont vues à travers la subjectivité de chaque personnage, en fait. Et c'est du post-apocalyptique avec une pandémie qui ravage la planète. Et qui tue tout le monde sauf les adolescents de
Et
15 à
c'était
18 ans qui
avant
sont.
notre pandémie à nous.
Et c'est très bizarre parce que l'automne dernier, j'ai fait des rencontres devant des classes sur U4 avec des élèves masqués et moi j'étais masquée. Et je leur ai dit, c'est bizarre ce que je suis en train de vivre parce que vraiment, quand on a écrit U4, je ne m'attendais pas à vivre ça.
C'était en
Je
quelle
m'attendais vraiment.
année? C'était
Il a
2015, un
écrit
truc comme
en
ça?
2013-2014
Ah,
et il est
c'était
sorti en
avant.
2015. T'imagines? C'est.
Incroyable, enfin c'est troublant.
Au revoir Salomé!
Ouais,
Mais oui, voilà, c'est impressionnant, ouais, c'est impressionnant de rencontrer des élèves sur E4 avec des masques. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, ah oui, c'est quand même bizarre parce que ça te fait prendre conscience que on s'attendait tellement pas à vivre cette pandémie, enfin, tu vois,
ouais.
et tout d'un coup, tu te dis, j'ai écrit un truc sur une pandémie, et là, je me retrouve devant des élèves masqués, on est en train de traverser une pandémie 10 fois moins grave qu'U4, 1000 fois moins grave qu'U4, mais
Mais
c'était bizarre.
effectivement, ça donne l'impression d'avoir quand même. T'as écrit sur un sujet avec anticipation, sur un scénario qui, voilà, quand même. après qui a été
C'était
vécu, quoi.
étonnant. Ouais,
C'est
étonnant.
extrêmement
Après, ce que je
troublant.
disais, c'était, oui, c'est ça. Il y avait des élèves qui me disaient, est-ce que c'était prémonitoire E4? Je leur ai dit, mais non, parce que heureusement, parce que c'est quand même bien pire que le Covid, sauf mutation gravissime. Mais bon, tu vois, si tu te dis, c'est vrai que c'est quand même, c'est particulier, ouais, c'est particulier.
Et là,
Alors,
quand ça va
c'est...
sortir
Et
en bande
toi?
dessinée, bah, du coup, ça va un petit peu rappeler. Hein.
Voilà, on va voir ce que ça va, ce que va donner la bande dessinée. Oui, on va voir comment. C'est vrai que pour l'instant, ils sont encore discrets, alors qu'elle sort en janvier. Elle sort
Oui,
bientôt,
c'est
finalement,
ça
ces
que
quatre premiers
j'en
volumes.
avais entendu parler. J'ai pas trouvé beaucoup de communication pour le moment, donc ça que je
Ouais, c'est
voulais.
dur.
Je préférais que tu communiques dessus si tu le souhaitais. Des fois, qu'il y aurait eu un report. Hein. Mais bon.
Non, bah en fait, la maman, oui, vraiment, on peut communiquer dessus. C'est officiel, ça sort en janvier, ça commence à être annoncé sur les sites. C'est les quatre tomes sortent d'un coup, mais là pour le coup, les scénaristes qui sont des bons scénaristes, hein, ceux qui avaient fait Alter Ego, etc., c'est Lapierre et enfin, c'est des scénaristes belges. Vraiment, c'est des pointures du scénario. Et franchement, je trouve que leur scénario est très très bon. Ils ont pour le coup, par contre, vraiment transformé, c'est-à-dire qu'ils se sont
D'accord.
appropriés U4, l'univers U4, nos personnages, les enjeux de nos personnages, les personnalités de nos personnages restent les mêmes. Avec, tu vois, Jules, c'est vraiment, voilà, il a ce côté qu'on connaît de Jules, il y a Alicia, il y a tout, voilà, il y a la communauté, tout ça est là. Et à un moment donné, donc ça ressemble beaucoup au départ, tu te dis, ok, ouais, ça ressemble, c'est ça, etc. Et puis à un moment, aux deux tiers à peu près là, du tome 1, il commence à implanter des choses qui ne sont pas du tout dans le roman. Tu vois, et dans tous les tomes en fait, c'est-à-dire qu'ils implantent autre chose, et là tu te dis, ah oui, d'accord. Donc là, on est sur un travail d'adaptation où ils ont reconstruit quelque chose d'autre, et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Et le tome 5, moi je n'ai pas lu leur scénario du tome 5, mais il va amener ailleurs. Car la résolution ne sera pas la même que dans les U4 qu'on a écrit nous,
Et donc, en fait,
tu vois.
tu fais les deux expériences, c'est-à-dire avec l'adaptation BD de Lumière, là c'est extrêmement proche du texte, et avec l'adaptation BD de U4, là par contre, tu fais l'expérience complètement différente, et les deux sont
Là,
intéressantes.
et les deux sont intéressants, sauf si dans le tome 2 de l'adaptation de Lumière, il s'éloigne. Ça, j'ai pas lu le tome 2, par contre, tu
Donc
vois.
tout est encore
Dans le tome
possible.
1, il est très proche. Après, est-ce que dans le tome 2, il va s'éloigner? C'est possible aussi, tu vois. Ça, c'est là où je te dis, enfin, ça se trouve, c'est, tu vois, et dans le tome 1, il est proche, et puis je sais pas ce que va donner le tome 2, mais en tout cas, dès les tomes 1, en fait, parce que les quatre tomes vont sortir en même temps, dès les tomes 1, t'as déjà des choses implantées nouvelles dans l'adaptation du 4 en BD. Et par contre, c'est vrai que, je me dis, ça, tu vois, on est déjà quoi, mi-octobre, novembre, décembre, ça sort dans 2 mois et demi, ou tu vois, un truc comme
Oui, il
ça.
n'y a pas encore
Et c'est
beaucoup de communication en amont pour le moment.
Non, alors qu'il commence déjà à parler plus de l'adaptation de Lumière, presque, tu vois.
Oui, et oui.
Il sort en avril. Donc, ils n'ont pas
Bah,
la
comme
même
ça, c'est
manière
bien,
de.
vous avez l'information en quasi-primeur.
En avant-première. Ouais, ça, oui. Là, oui, parce que les gens ne savent pas du tout que U4 sort en BD en janvier, pour l'instant. C'est étonnant.
Alors,
Très étonnant.
il y a pas mal de personnes qui se posent la question là sur le chat, Hélène, Bossy, d'autres. Est-ce que tu as ton mot à dire, toi et les autres auteurs, hein, sur les adaptations, un droit de regard, par exemple aussi, notamment pour le design des personnages, ou autre?
Bah alors là, c'est pareil, à un moment sur. Ah oui, t'as même mis, j'ai pas vu, j'avais arrêté de suivre le truc du
Faut
chat.
scroller.
Mais t'as arrêté parce que j'avais vu une question où je m'étais dit, il faut que je réponde sur ça doit être difficile de se détacher de son histoire comme ça.
Oui.
Je vais essayer de répondre aussi à cette question. Oui, voilà, donc U4, c'est ça. Et donc oui, par rapport au droit de regard, c'est ça, pour le design. Alors, et sur les adaptations. Alors, deux choses, par rapport aux adaptations en BD, des romans. On a plutôt pris le parti de lâcher prise. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est quatre auteurs. Déjà, ça a été 2 ans d'écriture, d'écrire les quatre scènes, d'écrire les quatre romans, de trouver les scènes communes, etc. Donc, on s'est dit, si là, il y a deux scénaristes qui travaillent sur les quatre tomes, si on commence à dire que les auteurs interviennent, les auteurs qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, qui vont pas avoir les. En fait, on n'a pas
Ouais.
forcément les mêmes notions de ce qui est important. On n'a pas forcément les mêmes notions de. Ce qu'on imagine ou ce qu'on veut comme adaptation. Donc, on s'est dit que le seul moyen que le truc se fasse à un moment, c'est lâcher prise. Donc, en vrai,
Ouais.
on a lâché prise. On a quand même eu un droit de regard. Les scénaristes ont été assez respectueux. Ils nous ont envoyé leur scénario. Et certains d'entre nous ont pu demander quand même à changer certaines choses. Moi, j'ai été assez touchée parce que quand ils m'ont quand même envoyé un mail hyper sympa, les scénaristes, à un moment en cours de route, donc c'est du off hein, que je vous donne, c'est pour me dire que est-ce que ça ne me posait pas trop de problèmes s'ils faisaient mourir Jules à la fin dans l'adaptation. Et quand j'ai lu ce mail, tu vois, Christelle, t'imagines, on te dit que dans l'adaptation en BD, on fait mourir un personnage que ton personnage adorait, quoi. Tu vois le truc? Voilà, exactement. C'était ça.
C'est très violent quand même, quand même.
Voilà. Et alors, c'était hyper gentil comment il le disait. Et en même temps, je
Et
me
en
dis,
même
putain.
temps, c'était le contenu même était
Et
un peu
tout,
violent
c'est
quand
vraiment
même.
cool. Ah oui, c'était pas rien. Mais donc, j'ai vraiment pris le temps de
De
réfléchir. Je me
réfléchir.
dis, attends. Oui, parce que c'était, je me dis, ah quand même. Et donc c'était très gentiment tourné, vraiment, c'est-à-dire, et je trouvais ça plutôt sympa en soi qu'il me demande,
Oui,
il me
tu ne le
demande le.
découvres pas au moment de lire la bande dessinée.
Et puis voilà, et puis il me disait aussi, est-ce que, quelque part, il y avait quand même un côté, il me demandait mon autorisation, ce qui était quand même assez touchant de leur
Oui.
part. Non, non, mais il ne va pas mourir en fait, parce que j'ai réussi.
Ah,
Je me suis
c'est bien, elle
battue.
nous fait un petit suspense là, mais.
Oui, Jules est extrêmement attachant, Chevalier Nyx. C'est vrai que Jules, c'est un personnage hyper touchant et hyper attachant. C'est vrai, hein, franchement. Et du coup, le truc, c'est que je leur ai répondu en disant, voilà, écoutez, si vraiment, comme il y avait des enjeux narratifs, parce que justement, ils réinventaient une nouvelle fin, etc., je leur ai dit, si vraiment c'est important pour vous, pour la globalité de l'œuvre, pour ce que vous voulez faire comme tome 5, pour la construction narrative de votre histoire, si ça vous semble vraiment important que Jules meure et que c'est le moyen pour vous de résoudre votre manière de faire cette histoire-là, je dis, je ne m'y opposerai pas, de toute façon, on s'est engagé à pas s'y opposer et je ne veux pas vous bloquer dans quelque chose, mais je ne vous cache pas que ça me fend le cœur quand même que Jules meure, quoi, parce que c'est, voilà, s'il y avait pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mourir quelqu'un d'autre?
Un personnage
tu vois.
secondaire qui nous...
C'était quand même, tu vois, je me disais, oh là là. Mais voilà, tu vois, donc je leur avais vraiment
Ils ont été
répondu ça.
sensibles à ton message.
Et en fait, je leur ai dit, voilà, et ils ont dit... Et en fait, ils ont dit, d'accord, merci Carole de nous donner l'autorisation, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, un an plus tard, j'ai reçu un message où ils m'ont dit, bah écoute, finalement, voilà, on est hyper contents et tu vas être contente, mais... On n'avait pas besoin de faire mourir Jules, et finalement, on s'est dit que c'était beaucoup plus précieux de garder Jules vivant, et donc Jules ne meurt pas, et tout ça. Et donc j'étais hyper
Ouf.
contente, tu vois.
Oui, non, c'était
Oui,
quand même.
voilà.
Mais
Jules Forever, exactement.
c'est une anecdote, je trouve, qui est très intéressante pour montrer la façon justement dont vous avez pu dialoguer autour de l'adaptation BD.
Oui, ils sont vraiment. Oui, c'est une aventure à part entière quand même, une adaptation de ton roman. Il y a ce mélange entre le lâcher prise et peut-être parfois des trucs où tu te dis non, là c'est pas possible, et en même temps, tu vois, voilà. Mais je pense quand même que les scénaristes qui adaptent le roman de quelqu'un, ils ont quand même envie que les choses se passent bien avec les créateurs de l'œuvre, enfin, tu vois, avec les romanciers, ou parce
Oui,
que ça serait quand
c'est
même
dans l'intérêt de
difficile
tout le
d'avoir.
monde que ça se passe bien.
Voilà, enfin, t'imagines si tu fais un truc et que tu sais que tu apprends que les romanciers détestent, n'aiment pas, enfin, même si tant pis, j'assume, c'est une autre œuvre, tu vois, mais ça serait, voilà,
Mais
ça serait
bon,
quand
c'est quand
même.
même, c'est mieux quand, voilà, quand tout le monde est derrière le projet et que, voilà, ça.
Donc c'était quand même, c'est la vraie anecdote par rapport à
Oui,
Jules, je pense que
évidemment,
je
mais.
pourrais. Je pense que je pourrais raconter, il faut que je retrouve les mails, mais c'était assez étonnant comme sentiment, ce truc-là. Je me rappelle, tu vois, d'avoir dit à Paul et Paloma, bon, ils veulent tuer Jules, hein, dans l'adaptation en BD. Tu vois, et Paul me
Alors,
dit, ah bon, mais
ce n'est
pourquoi
déjà pas une affaire facile quand soi-même on doit tuer un de ses propres personnages dans l'intérêt de l'intrigue. C'est déjà pas un choix
Exactement.
facile. Mais alors, quand
Ouais.
c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour nous.
Exactement. Et en plus, tu vois, déjà, on m'en veut pour un certain truc qui se passe à la fin. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont
Oui.
pas lu 4, tu vois. J'ai des lecteurs parfois, ben, tu connais hein, ça. Il y a des lecteurs parfois qui m'en veulent des choix que j'ai pu prendre à la fin, tu vois, de certains bouquins. Mais alors là, voilà, c'est encore autre chose, quoi. Donc voilà. Et après, sinon, j'ai vu qu'il y avait le droit de regard pour le design des personnages. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, en fait, là, non, par exemple, sur E4, on a vraiment eu absolument aucun droit de regard sur les choix graphiques, sur les choix du dessinateur, etc. Là, c'est vraiment la maison d'édition qui adapte,
Décider.
qui va travailler là-dessus. Et ceux qui peuvent éventuellement avoir un droit de regard, si la maison d'édition fonctionne comme ça dans les binômes, en tout cas scénariste-dessinateur, c'est les scénaristes. C'est ceux qui ont fait l'adaptation qui ont un droit de regard. Et pour Lumière, c'était un tout petit peu différent du fait que je connais très bien maintenant l'éditrice de Vent d'Ouest, parce que bah, c'est elle qui édite T'as vu ta tête, tu sais, ma petite BD et tout
Oui,
ça.
on va en parler, on va en parler.
Voilà, et du coup, je travaille avec elle. Donc, elle, pour le coup, en plus, c'est elle qui avait aimé Lumière. C'est elle qui a vraiment proposé cette adaptation de Lumière, qui a eu cette idée-là, qui l'a visualisée en BD. Et donc, et Lilian lisait aussi le roman en même temps. Et l'anecdote, c'est que Lilian lisait Lumière, donc le scénariste de Lumière, de l'adaptation. L'éditrice de Vent d'Ouest lisait Lumière. Et elle lui dit, comme ça, dans un salon, ah, je suis en train de lire un super roman, Lumière. Et il lui dit, ah, mais moi aussi, je suis en train de le lire, j'aime beaucoup. Et ils se sont dit, ah, ça serait super de l'adapter. Et c'est comme ça que est né le projet d'adaptation, en fait, de Lumière. Et là, Sanoé, quand ils ont Lignan a dit, moi j'aimerais travailler avec Sanoé, Valérie a dit, ah, ben, moi aussi j'aimerais travailler avec Sanoé, proposons-lui Lumière. Et en fait, très vite, ils m'ont mis dans la boucle. Valérie m'a dit, écoute, on pense à elle, regarde ce qu'elle fait, et pour ton adaptation. Et moi, j'ai dit, oui, c'est génial, j'adore. Voilà.
C'est comme
Et
quoi,
donc,
comme
ça, c'est
quoi,
toi pour
il y a
Lumière.
comme ça des conjonctions, il y a des trajectoires entre différentes personnes qui se sont rencontrées au bon moment. C'est là que se font certains projets.
Oui, c'est ça, il y a des trucs comme ça, voilà.
Des
Donc
convergences.
c'est vrai, ouais, c'est des convergences, des alignements d'étoiles, ouais. Et c'est vrai que pour E4, par contre, non, moins là, on a été moins, on n'a pas été sollicité du tout, quoi. On n'avait pas du tout notre mot à dire, vraiment. C'était là, ça s'est resté en dehors de nous et on nous a juste envoyé les BD une fois qu'elles étaient finies, en gros.
D'accord.
Pour le graphisme, on n'a pas participé du tout pour E4, en fait.
Mais comme tu expliquais que
Finalement, t'as
parce
vu
que sinon ça faisait
ça.
beaucoup d'intervenants sur le projet, que ça aurait peut-être
Bah,
été
en
compliqué
plus,
de tout concilier.
oui. T'as vu, j'ai réussi à remettre. C'est bon,
Mais
j'ai mis
t'es.
un système pour la batterie.
Oh,
C'est
bravo! Bah là, tu es en
libre,
train de
mais.
gérer, tu fais l'intervention, tu rebondis sur des questions sur le chat, tu gères ta batterie à côté. T'es extrêmement reposante comme invitée, hein, moi.
Voilà, j'ai fait un système pour que, tu sais, pour qu'il n'y ait pas du tout de. Et ça tient, tu vois, je suis sur le fil.
Nous
Voilà,
n'entendrons
comme
pas
je.
Camille chanter un petit interlude
Si, 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 si. Camille
musical.
chante quand même. Camille peut chanter quand même, ça serait bien. Au contraire. Non, non. Hein, Camille?
Et
Voilà,
Camille
Camille chantera.
qui s'est endormie, du coup.
À la fin.
Au
Moi, je
fond de
veux
la mer.
entendre la chanson de Camille. Tu la connais, la chanson, toi? Christelle?
Absolument pas, non, je lui fais confiance pour improviser. La connaissant, à mon avis, ce sera la carioca.
D'accord. La
Ah,
carioca version la passe-miroir.
ça, oui, il faudrait voir si on peut faire des adaptations. Mais
Voilà. Bon.
est-ce par rapport à U4, toi, tu as dit ce que tu voulais dire? C'est juste pour savoir si, comme finalement, on n'avait fait qu'évoquer Marussia tout à l'heure par rapport au folklore russe. Si tu souhaitais quand
Non.
même qu'on
Ouais, tu l'as
revienne
mis
un petit peu dessus. Non,
là. Ouais, tu l'as mis la Maroussia? Non, t'as pas encore mis Maroussia.
pas
Ça fait
encore.
beaucoup de. Oh, ça fait beaucoup de belles couleurs. La lumière, c'est super beau. Quand même, oh, les beaux illustrateurs. Hein.
je vais tout de suite mettre la couverture de Marussia. Et ce que j'ai fait, donc, si tu m'autorises, j'ai fait deux captures d'écran de l'intérieur de l'album, pas en haute résolution, comme ça préserve quand même un petit peu. Si tu es d'accord, je peux partager, comme ça les personnes vont pouvoir. J'ai eu le temps, du coup, de lire le texte tout à l'heure et de voir les images. Magnifique, hein. Là, c'est une œuvre d'art, hein, Marussia.
Ah oui, ouais. Je suis totalement fan des illustrations. Ouais, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Marussia, pour moi, c'est vraiment chaque illustration est une œuvre d'art à part entière. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah, mais en fait, j'ai dû choisir là pour dire, tiens, qu'est-ce que je vais leur montrer? Mais en fait, j'aurais pu tout montrer. Elles sont toutes incroyables. Il y a une ambiance et complètement au service du texte. Là, c'est complètement imbriqué dedans. Et à nouveau, on retrouve ici le côté fantastico-historique russe avec cette ligne du Transsibérien qui va traverser un village et une forêt et les esprits de la forêt qui vont se faire un complice de Maroussia pour essayer de sauver la situation.
Ça t'a plu du coup le texte?
J'ai
Ça t'a
adoré.
fait voyager un peu en Russie?
Ah bah franchement, moi en fait c'est quelque chose que je n'ai jamais fait comme expérience hein, les albums jeunesse. Et justement c'était une question que je voulais te poser, c'était passer d'un roman textuel à un roman d'album jeunesse où là tu dois concentrer, tu as toute l'essence d'une histoire finalement en assez peu de place. Et là je me dis mais tout y est. L'histoire, elle est là en entier. Il y a l'ambiance, il y a les mots, ils ont une sonorité. Ça, pour moi, je pense que quand on le lit à voix haute, ça doit avoir. Voilà, je pense que tu as pensé ton texte pour qu'il soit en plus lu avec la voix
Oui,
de l'auteur ou
exactement.
de la conteuse. Ça se sent que c'est écrit
Exactement.
ainsi. Et en même temps, voilà, tout y est en peu d'espace, hein, parce que je me dis, faut arriver à raconter toute une histoire finalement. En peu de
Oui,
place.
c'est ça la. Oui, ça c'est toi. C'est vrai qu'après tu dis, mais c'est vrai que en fait. Déjà, c'est vrai, tu as raison totalement, c'est écrit de manière très orale et je l'ai vraiment, quand je l'ai écrit, j'avais vraiment une mélopée, tu sais, dans la tête, comme une espèce de rythme, de mélodie, comme ça, de pouvoir presque le chanter un petit peu. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça,
Ça
hein. C'est
se
vraiment
sent.
là pour moi. C'est ça, c'est la mélodie des mots qui me guide dans la manière de raconter cette histoire. Et après, c'est vrai que ce qui aide, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'une histoire comme ça, tu pourrais en faire un roman. Tu vois, tu pourrais faire un roman de cette petite fille qui vit avec sa grand-mère dans la campagne, dans un petit village, avec sa grand-mère qui est très croyante, tout son quotidien, et puis les soldats qui arrivent, le danger, la forêt qui est menacée, et les dieux qui l'aident, ou pas d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, c'est écrit à
Oui,
deux niveaux en fait.
tout à fait. Et
Bon,
il y a
c'est pas.
justement, en fait, il y a deux formes inquiétantes dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui les résume assez bien, c'est par rapport à la grand-mère, qui a, enfin, il y a les esprits de la forêt, les dieux, qui ont un côté parfois très inquiétant et très ambivalent. Et en fait, elle a plus peur des hommes que des dieux.
Exactement. Et bah, c'est une phrase hyper importante. C'est drôle que
Voilà.
tu l'aies repérée.
Ah
C'est
ben,
exactement ça.
tout est dans le
Eh bah
texte.
oui, mais c'est drôle que tu aies vu cette phrase-là parce qu'elle était forte pour moi, cette phrase-là. C'est
Ben,
exactement ça. C'est
ça se ressent.
que le danger vient en fait des hommes. Et pas des dieux qui participent de l'équilibre de la forêt et de leur monde depuis toujours, et que finalement ils vivent dans un équilibre avec les dieux anciens, entre leurs offrandes, leurs croyances, et puis finalement tu sais pas si quand tu lis, tu peux lire en disant les dieux existent, ils accompagnent Maroussia, ils aident Maroussia, ils sont voilà, ils
Il y
peuvent
a une
être
sorte de
farceurs.
partenariat hein, qui se fait.
Voilà, c'est ça. Et ils peuvent être farceurs, ils peuvent chatouiller les voyageurs, ils peuvent les égarer, ils peuvent être vengeurs et ils peuvent être puissants. Mais finalement, si on les respecte et qu'on vit en équilibre et en respect de la forêt, des animaux de la forêt, du village, etc., ben, la vie continue et se poursuit. Et en fait, dans ce cas-là, on peut y croire et puis on peut aussi le lire en se disant que c'est parce qu'elle croit à tout ça. Et que c'est toute cette croyance-là qui lui donne la force d'agir. Vois, c'était
Il
aussi
y a la
ça.
détermination de Maroussia hein, qui transparaît. On sent que
Voilà.
elle est confrontée à des peurs, mais qu'elle dépasse. Et ça va lui donner une force de persuasion le moment venu.
Oui, voilà. Et elle est aidée par sa foi et par sa croyance dans ces dieux, en fait, parce qu'elle se dit qu'ils sont d'accord avec elle et qu'ils sont avec elle. Et ça, je trouve ça assez intéressant qu'il y ait cette idée de surgissement des dieux. Et dans les images, je ne sais pas si tu as vu, mais bon, tu recevras l'album, je pense, mais il y a aussi les dieux, tu les vois ou tu les vois pas, ils surgissent ou pas, tu vois, ils sont là ou pas. Tu vois, regarde, tu vois dans l'image que tu as mis avec la grand-mère, tu peux ou pas voir des petits yeux et des petits esprits, ou juste des fleurs. En
C'est
fait, et c'est ça
incroyable.
aussi, c'est de se dire.
Oui, en
Tu peux
fonction de
décider.
l'interprétation qu'on fait de la
Voilà.
réalité, il y a la double lecture. Et là,
Exactement.
les
Il y a
images
vraiment.
sont aussi donc à très très bien regarder. Voilà,
Ah oui,
on peut voir plein
il y
de
a
choses dans les
des
images.
détails incroyables partout. Et l'illustrateur, il a fait un travail incroyable parce qu'il y a l'iconologie russe, il y a son imaginaire à lui et son style et sa
Ah
manière de travailler qui est vraiment
vous
celle d'un
êtes
artiste.
parfaitement complété hein, sur cet album.
Complètement.
Et
Ah, mais c'est
c'était
rare.
Daniel Ennéus, est-ce que je prononce bien?
Daniel Ennéus, c'est un
Ennéus.
artiste en fait. Il habite à Athènes. Il travaille, tu sais, beaucoup aussi pour. Enfin, c'est lui qui avait quand même fait les couvertures des Neil Gaiman.
D'accord.
Tu
Oui,
vois, des
qui sont très
romans.
belles aussi, hein.
Voilà, qui sont assez incroyables. Il avait fait aussi une fois l'affiche du Salon de Saint-Malo, là, tu vois,
Oui, les étonnants
l'image.
voyageurs.
Voilà. Et il travaille beaucoup, tu sais, pour des New York Times,
Oui,
Hermès,
donc effectivement, c'est
de la mode.
de la grande
Voilà,
poitrine.
c'est un travail. Tu vois, d'ailleurs, tu vois dans Marussia, le rapport au tissu, il est très fort
Oui.
chez lui. Tu as vraiment dans les détails
Ah,
du tissu.
les textures dans les
Ouais.
images.
C'est impressionnant. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi dans le monde de la mode, en fait, Daniel. Et il fait quelques albums jeunesse. Et là, en fait, c'est la première fois qu'il a fait un album où il. Parce que cet album, en fait, il est assez intemporel. C'est-à-dire, tu peux le lire à tes enfants à partir de 6-7 ans, mais tu peux le lire à 40 ans, en
Ah ben,
fait. Enfin, tu vois,
je confirme, ça se lit à 40 ans, il n'y
voilà,
a pas
il
de
n'y a
problème.
pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et de fait, il a mis en application sa manière de travailler d'artiste. C'est-à-dire qu'il peut partir, lui, par exemple, il peut partir d'une. Tu vois le loup, Christelle,
Oui.
Eh ben, il part d'une plume d'autruche, en fait. Et il va autour de la. Donc il part d'un collage en fait. Il va vraiment peindre, coller des papiers, des calques de couleurs, des tissus, des trucs, etc. Et il va laisser une place au hasard. La forme va se dessiner, tu
Oui.
vois. Comme ça, il va petit à petit, un petit peu. Il a comme un petit crayonné au départ, mais tu vois, il laisse vraiment faire les éléments. Et après, une fois que la forme est dessinée, il scanne et il peaufine par ordinateur. Tu vois, et ça, c'est sa manière de faire en fait,
Oui,
en gros.
ben
À...
effectivement, enfin
Ouais,
enfin les
et c'est
images
une
ont
démarche.
une atmosphère et une puissance évocatrice à ce
Ouais,
niveau-là.
non, voilà. Du coup, là, effectivement, on retourne sur les dieux anciens de la Russie, sur les
Oui.
esprits, sur le folklore russe,
Et je me suis
sur
rendu
tout.
compte en disant que vraiment je ne connaissais pas du tout ce folklore parce que tous les noms que tu évoques, je me disais,
Oui, voilà, c'est
voilà,
des
Dindi, c'est
personnages
vraiment
du
l'occasion
folklore.
pour moi d'être introduite à
Des
cet
personnages du
univers-là.
folklore russe. Et en fait, l'idée, c'est que c'est, quand tu disais par rapport à la taille, c'est que c'est écrit comme un conte. Et l'avantage du conte, c'est que par rapport au roman, où tu dois tout justifier, où, ah oui, voilà le loup, qui est
Voilà,
absolument
je fais une
incroyable.
petite capture d'écran pendant que tu me.
Il est incroyable, ce loup.
Ah ouais, mais
Et.
et ça j'ai eu un petit parallèle avec Princesse Mononoké. Je ne sais pas si tu l'as
Eh
vu,
ben
je ne l'ai
oui,
pas
ouais,
dit,
clairement.
mais
Ouais.
visuellement et dans le thème de l'histoire, il y a quelque chose. On sent des
Ouais.
connexions.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai sur ce rapport à la nature, aux esprits de la nature, mais de combattre quand même pour défendre son endroit, complètement, ouais. J'ai dû m'absenter 2 minutes. Quelle est cette image magnifique?
Oui,
C'est
Chevalier Nice,
une.
c'est un extrait de l'album Marussia, l'album jeunesse. Marussia, celle qui sauva la forêt. J'ai
Ouais,
mis la
et.
couverture un petit peu plus haut.
Voilà. Et de fait, oui, c'est vrai que là, voilà, tu retrouves tout le folklore russe. Et en fait, si je peux écrire cette histoire en ce que tu dis, tu vois, en relativement peu de pages, c'est parce que c'est un conte. Et donc, j'ai pas besoin de justifier. C'est
Oui.
l'avantage du conte, en fait. C'est que tu
Oui.
pars du principe que elle vit dans son village. Et puis, ça participe, c'est l'écriture permet ça. Tu vois, c'est pour ça que
Oui.
souvent, dans le conte, il y a le côté une écriture poétique. T'es plus dans une poésie et dans une musique, t'as pas besoin de justifier, dès là, tu sais qu'elle vit dans un, voilà, dans un village, tu sais que dans la forêt il y a des esprits, et t'es dans un autre rythme et dans une autre musique qu'un roman, et tu pourrais faire un roman de Maroussia, mais dans ce cas-là, tu implanterais vraiment des liens psychologiques avec sa grand-mère, il y aurait un ami au village, tu ferais monter en puissance, tu vois, la.
Oui.
Tu ferais monter, tu vois, les ouï-dire sur la construction du transsibérien, les soldats, il y aurait des scènes vraiment violentes des soldats qui sont prêts à tout saccager, enfin, et là tu ferais le roman, tu partirais sur autre chose,
Et là,
tu vois.
tu as toute l'essence et l'immersion est instantanée, je trouve.
Ouais, bah écoute, c'est super.
Dès les premiers mots, ça y est, les premiers mots, les premières images, on est dedans, on est dans cet univers-là.
Oui, bah oui, c'est vrai qu'après, c'est moi, c'est quand je recevais les images de Daniel, j'avoue que j'étais à chaque fois assez émerveillée, en fait,
Bah,
parce que je...
j'en profite pour te transmettre une question qui m'avait été posée par Fanyu. Est-ce que le fait d'être classé en catégorie jeunesse vous a contraint et empêché d'écrire certaines scènes? Donc là, c'est de façon un peu générale, mais comme
Bah
ça.
non, parce que moi, j'ai jamais... Non, j'ai pas de frustration. C'est comme si à un moment, tu te mets... Tu sais à qui tu écris, tu sais pourquoi, et t'es pas dans, enfin voilà, assez naturellement, tu vas vers là où tu as envie d'aller. Je me suis jamais dit non non ça il faut pas parce que voilà, et quelque chose comme Maroussia pour le coup je l'ai écrit comme un conte totalement intemporel. Je me suis pas dit pour enfant, pour adolescent, pour adulte. J'ai écrit un conte et le propre du conte c'est que tu peux le lire à tous les âges. Mais pour moi, je le lis en tant qu'adulte. Enfin, tu vois, j'ai
Il y a
pas de...
plusieurs regards qu'on peut avoir.
Plein de niveaux de lecture. Plein de niveaux de lecture, en fait. Et vraiment, je pense qu'en plus, je pense vraiment, les enfants, c'est même plus quelque chose que les parents liront à haute voix aux enfants, tu vois.
Oui, je pense que là, c'est tout l'intérêt de ce type de texte-là. C'est pour une lecture partagée.
Ouais, et puis comme on s'était dit déjà, toi aussi, hein, c'est pareil, moi, c'est vachement difficile de cloisonner les âges, en fait.
Oui,
Quand on
oh là
écrit,
oui. Oui. Mais
souvent
bon,
on dit
je
à partir.
confirme pour avoir lu tes livres que tu ne te censures pas et que tu abordes des
Non.
sujets même les plus difficiles, tu les abordes frontalement et tu fais pas de tralala. Il n'y a pas de pathos dans ce que tu fais. Tu
Non.
montres voilà, les choses telles qu'elles sont. Et moi, justement, bah, ça fait partie des grands enseignements quand j'ai lu Ça avait commencé avec Nina. Et là, je me suis dit, ah d'accord, ok. Voilà. C'est un livre qui est quand même, voilà, qui a cette estampille jeunesse, mais qui n'hésite pas à aborder tel sujet frontalement. Et voilà, c'est pas édulcoré et c'est bien. Et ça fait du bien.
Enfin, pour moi, les lecteurs enfants, les lecteurs ados, les lecteurs adultes, c'est tous des lecteurs, tu vois, enfin, lecteurs, lectrices. Je fais pas de hiérarchie et je trouve que les enfants, ils sont incroyables et les adolescents et les adultes. Enfin, on va dire que je parle vraiment à la sensibilité, à l'intelligence de tous et pas du tout. Je crois profondément que les choses peuvent s'entendre, enfin qu'on peut parler de tout en fait avec tout le monde, mais
Oh
voilà,
que oui.
tu
Oh que oui.
d'une certaine manière, mais et comme dans la vie en fait, hein, tu vois, comme dans la vie, donc voilà, en gros, effectivement. Et puis de plus en plus, j'aime écrire des choses que, enfin, tu vois, Maroussia pour moi c'est lu par tout le monde,
Oui.
voilà, je ne cloisonne
Ouais,
plus.
tu te dis pas, voilà, j'écris un album jeunesse pour tel à tel âge. Non. Comme tu dis, c'est intemporel et ça peut se transmettre. Ça peut toucher toutes les générations et même se transmettre. Hein. Là, on est dans de la transmission. Hein.
Exactement. Vraiment, pour moi, c'est ça. Et
Et c'est
c'est
même
comme...
il y a le thème hein, dans Maroussia, hein, la grand-mère qui transmet son
Exactement.
savoir.
Oui, c'est ça, hein, là,
Voilà.
c'est hyper important, le lien avec la grand-mère. Et en Russie, les grand-mères sont des personnages très, très importants. Ça, c'est aussi, c'est
Babouchka,
vrai, parce que j'ai beaucoup en Russie. Babouchka.
babouchka.
Babouchka, t'as vu, je l'ai dédié à ma grand-mère, ce livre, hein. C'était important pour moi. Et c'est vrai que les grand-mères, c'est des personnages en Russie très importants. C'est les femmes qui prennent la relève et qui s'occupent des enfants pendant que les mamans travaillent. Il y a vraiment, il y a une tradition. La grand-mère transmet et la grand-mère s'occupe des enfants en Russie. Tu le vois dans les contes, tu le vois dans les histoires et tu le vois dans la vraie vie. Parce qu'en plus, ils vivaient beaucoup toutes les générations ensemble, hein, et pendant, tu sais, quand il y avait des appartements communautaires pendant la période soviétique aussi, et du coup, les familles parfois réussissaient à vivre ensemble, tous dans le même appartement,
Ah oui.
tu vois, et donc les grand-mères, souvent, elles vivaient avec leurs enfants, avec les enfants, enfin voilà. Donc
Ah, c'est
voilà.
extrêmement, extrêmement touchant. Et la relation, hein, ma mère aussi avec sa grand-mère, est belle hein,
Oui,
dans
bah
l'histoire.
c'est non mais c'est clair. Bah t'as le touche que tu l'aies lu, du coup finalement tu l'auras lu.
Mais oui, non, non,
Eu le temps.
j'ai eu le temps, j'ai pris le temps, mais
Ouais.
ça m'a bien inspiré.
Merci bien. Tu me diras quand tu recevras
Oui,
le vrai.
l'exemplaire papier imprimé, je te promets, je te ferai signe.
Ouais.
Et si j'aurais vraiment voulu aussi parler, bah là, on n'est plus du tout dans le fantastico-historique russe, mais égyptien, avec T'as vu ta tête? Ce n'est pas.
On n'allait
Alors,
pas, ouais,
je
c'est en est.
précise que T'as vu ta tête, c'est le nom de la jeune momie.
Ben oui.
De la bande dessinée, une jeune momie qui s'échappe de son musée sur le point de fermer et qui va gagner l'Angleterre. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée, et c'était que tu as scénarisé. Et là, du coup, je me suis dit, bah, tiens, on est toujours dans cette petite touche, on sent la documentation historique qui va cohabiter avec le fantastique, mais là, la petite touche égyptienne, c'était nouveau.
Oui, exactement. Ouais. C'est que je me suis dit. Alors, oui, c'est ça. Je reste fidèle au côté historique fantastique parce que c'est un personnage de l'histoire égyptienne. Et c'est une momie. Et elle est la fille de Hatshepsut, qui est la plus grande et la première pharaon femme égyptienne. J'aime bien quand même aussi les personnages féminins forts. Et donc, c'est vrai que je trouvais ça intéressant. C'est une princesse complètement imaginaire, sinon elle ne s'appellerait pas T'as vu ta tête. Hein. C'est clair que là, il y avait vraiment. Elle est imaginaire, mais elle est quand même la fille d'une vraie pharaon. Donc, déjà, tu as la dimension historique qui apparaît. Et après, tu as vraiment une dimension magique, parce qu'une petite momie qui est en vie, elle va rejoindre des personnages. Elle va rejoindre des personnages complètement fantastiques, toute une tribu de. J'avais vraiment envie de vraiment
Ah,
laisser
c'est
libre cours à.
très très
Je me suis
inventif,
fait
hein.
plaisir, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Ouais, ça.
Voilà,
C'est vraiment.
j'ai partagé la couverture hein, sur le chat pour les personnes qui se
Ah
posaient la
oui, trop bien.
question.
Ouais. Mais oui, mais c'est ça, c'est vraiment. Là, c'est vraiment comment se faire plaisir. Je me suis dit, avec T'as vu ta tête, toute la tribu de personnages derrière qu'elle va rejoindre, c'était vraiment de me dire. Bah, c'est d'où tu parles quand tu parles de la vérité romanesque. Tu sais,
Oui,
Christelle, et
oui.
que finalement, à partir de. On a réponse à tout, c'est organisé, on a un background pour nos personnages, et on sait à peu près quand même qu'on peut les mener quelque part, en tout cas, même si on ne sait pas où on va les mener forcément au départ, on sait qu'ils sont. On peut les amener, voilà,
Et
quelque part.
il y a
Et.
beaucoup d'humour hein, dans cette bande dessinée.
Oui, là, je voulais vraiment. Là, je me suis amusée vraiment sur les noms, certaines scènes, et puis les personnages fantastiques. Je voulais qu'il y ait du drôle, quoi. Le binôme de zombies, Jules et Jim. Il y a plein de références à BD. Tu sais, Jules et Jim qui répètent toujours ce que l'autre dit. C'est les frères Dupont dans ma tête, tu vois, mais en mode zombie. L'ancien copain de Sherlock Holmes avec l'ancien manager des Beatles. Il y a vraiment. Enfin, c'est vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie comme personnage, quoi. Enfin, tu vois,
Et tu vas à
qui.
fond.
Et puis les zombies. Tu peux finalement décider que c'est n'importe qui. Enfin, tu te choisis, c'est un zombie. Donc, il a vécu un moment. Et oui, il y a Bozzy qui demande la vérité romanesque. Mais oui, après, et c'est vrai que c'était ça, T'as vu ta tête, c'était vraiment l'idée de retrouver une légèreté dans l'écriture, de faire une quête initiatique et d'amener l'Égypte ancienne, parce qu'en fait, il y a très peu de BD qui traitent de ça. En fait, en vrai, il y a peu la mythologie égyptienne.
Il y a
Dans
eu
le dans la BD.
Papyrus à un moment donné,
Exactement.
et à part ça,
Exactement.
c'est
Voilà.
vrai que je vois pas trop.
Et elle a un côté princesse Disney, tu vois, le style de Gabriel et le dessinateur, il est italien et il vient de Disney en fait, hein.
Ah,
C'est un
mais
jeune homme
oui,
qui travaille.
les dessins en
Elle
plus
a quelque chose
sont
d'une
très
princesse
réussis.
Disney.
Hein. Là, le côté graphique est vraiment, vraiment sympa.
Moi, je l'imagine en dessin animé Disney, T'as vu ta tête. Enfin, tu vois, elle a un côté vraiment d'animation, quoi. Et là, dans le tome 2, où il y a toute la mythologie, enfin, tu verras toute la résolution de l'intrigue. Ça, c'est vraiment, on revient vraiment aux sources, quoi, à la mythologie et aux dieux, à certaines déesses et à certains dieux et à certains démons de la mythologie égyptienne. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est.
Et là, du coup, bah, il
C'est...
va avoir une suite parce que tu me l'avais fait parvenir
Bah, il y a...
par la poste et je me souviens que quand je l'ai reçu, j'ai dit, ah bah tiens, ouais, j'ai juste regardé la première page pour regarder un petit peu. J'étais fatiguée ce jour-là, mais j'ai dit non, je lirai plus tard, mais au moins la première page. Et puis finalement, je me suis installée dans le canapé et j'ai tourné une page et puis l'autre. Et puis en fait, j'ai lu jusqu'au bout, je pouvais pas, une page en appeler une autre. Et je me suis dit, bon bah finalement, je l'aurais lu en entier. J'étais à moitié endormie et pourtant, ça m'a complètement réveillée du coup. Je me suis dit, ça m'a entraînée. Et je me suis dit, ah, mais là, par contre, il faut la suite. Hein.
Ça, il faut la suite, là. Les petits lecteurs aussi me la réclament. En avril, Christelle.
Ah, ben voilà,
Tome
bah,
2.
c'est très bien. On a l'information, du coup,
Ouais.
le tome 2 ne saurait tarder. C'est bien, là, du coup, on a plein de
Ouais,
petites infos en
mars,
avant-première.
c'est ça. Janvier, c'est U4. Mars, c'est Lumière. Et avril, c'est T'as vu ta tête, le tome 2. Moi, je l'ai fini de l'écrire depuis longtemps, mais tu vois, le temps qu'il fasse les dessins, Gabriel, puis les couleurs, et c'est voilà, c'est hyper long, quoi.
Oui,
C'est hyper long.
ah, mais après, c'est soigné, hein. Ça,
Ouais, et
je
c'est
dois
vrai
dire
que il
que ça se voit.
y a plein de références, oui, quand il y a Astérix et Obélix, exactement, en
Oui,
fait, il y a plein de
je sais que sur le
références
chat, il y
à
a un
personnage.
Axolotl qui a fait le parallèle avec Astérix et Obélix, et je trouve que c'est
Exactement.
très juste. On sent qu'il y
Il y
a
avait...
voilà, des
En
clins
fait,
d'œil.
j'ai aussi écrit une scène dans le tome 2 de Bagarre, qui est vraiment une référence explicite, où il y a T'as vu ta tête et Uarius, qui est le cobra protecteur des pharaons, qui discutent sérieusement. Et derrière, en deuxième plan, il y a une grosse dispute. Et j'ai vraiment dit au dessinateur, là, c'est la grosse référence où ça finit avec des nuages de fumée et des onomatopées de bagarre.
Pas
Et
frais, mon
là,
poisson,
tout
pas
le monde.
frais.
C'est vraiment là, voilà, c'est toute la tribu des villages gaulois. Donc il y a des références à Astérix Obélix, il y a des références à Idéfix parce que la petite Képabet, sa petite loutre qui s'appelle Képabet, elle a un peu, tu vois, Christelle, le tempérament à la Idéfix.
C'est
Elle vit
vrai.
ses petites aventures en parallèle. Personne n'a le droit de faire de mal à T'as vu ta tête, mais elle fait plein de bêtises en même temps. Donc il y a vraiment des références que je me suis amusée à faire,
Ça
tu
devient
vois.
un
Et
peu
pareil, je te
la
dis, je
petite
l'ai lu.
mascotte de la BD. Hein. La petite loutre, elle est extrêmement adorable. Hein. Et visuellement, à chaque fois, il faut la chercher hein, dans chaque case parce que elle a une vie qui lui est propre, comme tu dis. Et
Ça,
elle
ouais.
accompagne ta petite tête, mais elle vit des choses alors, à côté parfois. Sa vie, sa propre
Un
petite
peu
vie à
galère.
côté.
Toujours un peu galère quand même, parce qu'elle se met quand même dans des situations périlleuses, qui est pas bête. Mais oui, voilà, c'est des références, ouais, c'est des références aussi quand même pour moi à des voilà, plein de gens de la BD. Du coup, voilà, ça y est, il est pas frais mon poisson. Je pourrais faire ça dans le tome 3
Si on
à un
le
moment donné.
voit, si on le voit avec Philly, on pensera à toi. On dira. Mais du coup, c'est sur ce projet BD-là. Donc là, tu as vraiment scénarisé. Je voulais faire le parallèle par
C'est moi.
rapport aux deux adaptations. Là, tu es vraiment au scénario, par contre.
Oui, là, c'est moi qui ai scénarisé. Je suis passée sur l'écriture de scénario. J'avais fait un premier scénario de BD dans U4 Contagion sur ce que Alicia avait vécu avant que Jules n'arrive pendant les 3 semaines de pandémie. Donc j'avais déjà écrit une première.
D'accord.
Premier scénario à ce moment-là, j'avais fait quelques scénarios de BD muettes pour les tout petits dans le côté apprendre à lire via de la BD muette. Et là, je me suis vraiment lancée ouais, avec T'as vu ta tête, mais je suis une grosse lectrice de BD en fait, donc finalement ça allait quoi. Il y a eu un moment donné un peu intermédiaire où je trouvais ça un peu technique, tu vois, parce que bah, tu connais quoi, quand tu es habitué à romancer, où tu es maître de ton monde, où tu décides, tu décris tout en fait, tu décris les émotions, tu décris. Des paysages à travers les yeux de tes héros, tu entremêles tout. Et là, tout d'un coup, la BD, il y a des ellipses, il y a des trous dans la narration, il y
Oui,
a...
c'est les images qui se chargent de voilà, de
Voilà.
transmettre.
Tu donnes
Mais
des indications, toi, à un dessinateur, mais tu ne... Voilà, tu vas... Et en fait, ça, c'est venu, la fluidité, elle est venue vraiment parce que à force, en fait, tu finis par visualiser. Ça, tu vois, il y a une espèce de fluidité qui passe par l'image. Que
ouais.
toi tu visualises. Et donc tu donnes tes instructions à un dessinateur en étant déjà en train de projeter avec des images en fait. Et du coup, j'ai trouvé une fluidité dans l'écriture de BD que j'aime beaucoup maintenant. Tu vois? Ça te tenterait,
C'est
toi,
une
d'être.
belle expérience. Moi, justement, ben, je réalisais que c'était assez différent, hein, les techniques d'écriture romanesque et écriture de scénario. Je ne savais pas du tout si j'avais des compétences pour, mais ben, quand, justement, quand j'ai lu T'as vu ta tête et je me suis dit, tiens, je voyais un peu la façon dont tu étais passé d'une technique à une autre. Bah ça, je me suis dit, voilà. En tout
Pourquoi
cas,
pas?
je me suis dit, c'est quelque chose que je ne devrais pas m'interdire, même si pour le moment, je ne me sens pas très compétente à ça. Mais bon, si on commence jamais, voilà, il y a peut-être un
Exactement.
moment où il faut se jeter à l'eau. Mais
Ah oui, tu peux
je vais
franchement,
prendre,
on en
faut que je
reparlera.
note. Je vais encore
Je
m'enrichir de ton
montrerai, je
expérience.
t'enverrai. Là, je t'enverrai mes scénars, tu verras
Ah
comment
ben, par
j'écris les scénars.
curiosité, je vraiment bien. Et il y a Bozy qui demande justement, comment tu as fait le scénario, si tu te chargeais aussi du storyboard, du découpage, même grossier, des pages.
Oui, ben en fait, moi, je fais vraiment planche par planche, strip par strip et case par case. Je ne dessine pas, donc je ne fais pas un storyboard dessiné. En revanche, je fais alors, je ne fais pas un découpage au sens de je ne donne pas, par exemple, d'informations, moi, sur la taille des cases. Tu vois, ça, je ne fais pas. Mais par contre, dans la case, je peux vraiment écrire gros plan sur ta vue ta tête qui a l'air très étonnée, dialogue, enfin, tu vois, en description de l'image, c'est ça. Et puis, dialogue, je mets ta vue ta tête, deux points. Mince, où est encore passé qui est pas bête. Donc vraiment, je peux, voilà. Où je, après, je vais faire strip 2, case 1, plan très large sur le temple où on voit au deuxième plan le groupe des uniques qui arrive et au premier plan une amorce sur une statue de la déesse Hathor. Enfin, tu vois,
Oui.
je suis dans la description quand même des plans, des plongées, des
Tu
contre-plongées.
réfléchis quand même comme quelqu'un qui tient une caméra.
Un peu, ou en tout cas, de me dire là, on a besoin d'un plan large. Là, ça serait intéressant d'avoir un gros plan. Là, tiens, ça peut être chouette d'avoir une plongée parce qu'on est dans la vision de quelqu'un qui est au-dessus, donc on pourrait faire une plongée. Là, tu vois, c'est-à-dire, j'ai vraiment ce genre de, ouais, ce genre d'indication. En revanche, pour le coup, là, avec le dessinateur, on fait un vrai travail commun après, où, en gros, il fait des propositions, il modifie mes propositions. Je lui dis parfois un plan large, ou parfois je lui dis un strip avec quatre cases, et lui il va faire deux strips de deux cases, tu vois. Il a
D'accord.
vraiment un droit, Gabriel, de modifier quand il est dans son dessin, dans son découpage à lui. Et du coup, moi, il me donne ses crayonnés, et en général, je valide parce que enfin, je le trouve super fort, et ses propositions, franchement, enfin, pour moi, elles sont toujours top. Sauf rares exceptions où je me dis, tiens, là, il y a un petit truc qui est moins clair ou quoi. Mais c'est très rare.
C'est une belle
Et
collaboration.
oui, voilà. Et après, moi, je réadapte même mon scénario à ces propositions de graphisme. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je vais réadapter le dialogue pour que ça corresponde bien à ce qu'il propose. Et parfois, ça permet de réduire même un peu de voix off, un peu de texte, parce que c'est trop bavard, parce que ben, je me rends compte que c'est trop bavard, parce que quand même, je suis romancière
Et
au
oui,
départ, du
il
coup,
y a la
je
place
recoupe.
que les bulles vont occuper. Hein,
Voilà.
et oui.
Donc je recoupe souvent après. J'élague le texte vachement une fois que je reçois ces dessins. Parce que je me rends compte que j'ai quand même trop dit de choses, tu vois, et donc
Ah
je
oui.
vais élaguer.
D'accord. Oh, bah, c'est super
J'élague
intéressant.
vraiment une étape. Ouais. Du coup, pour vous répondre.
Mais il y a Philly qui demandait si tous les personnages ont des noms avec des jeux de mots, là, comme t'as vu ta tête.
Alors, il y a pas mal. Ouais, il y a pas mal de jeux de mots dans les noms égyptiens. Je fais pas mal de jeux de mots. Même le méchant, enfin celui dont, voilà, qu'on rencontre dans le tome 2, il a un nom, c'est un nom égyptien, et donc il y a des jeux de mots. Et sinon, parfois, c'est pas des jeux de mots, mais il y a toujours un sens au nom. Par exemple, j'ai une petite troll trop mignonne, mais c'est une troll, donc elle a des grandes canines et plein de poils partout, mais elle s'appelle Marilyn parce qu'elle est très très coquette. Et c'est une référence à Marilyn Monroe. Donc, il y a toujours un sens, en fait, quand même, au nom
Oui,
qu'ils ont.
les noms ont
Voilà.
du
Il y a un Sénère qui
sens.
s'appelle Archimède. Voilà, c'est des noms à sens. C'est des noms. Quand ce n'est pas des jeux de mots, c'est des noms qui ont du sens. Voilà.
Oh, c'est trop mignon.
Voilà.
Et si tu
En
me
gros.
permets, si on a, parce que là, ça fait 1 heure qu'on a commencé. Je voulais aussi quand même aborder bah, les livres là vraiment historiques de ton œuvre, bah, parce qu'il y en a aussi donc qui n'ont pas cette dimension fantastique, mais qui voilà, n'en sont pas moins très embarquants. Alors, la dernière fois, nous avions parlé, il me semble, hein, de combien de pages jusqu'à la Lune,
Oui.
ton roman donc biographique de Katherine Johnson. Je reprends la citation là sur le bandeau, la femme qui a permis aux hommes d'aller sur la Lune, qui résume bien, bien le propos. Et on avait parlé aussi de Révolté, les deux sœurs jumelles dans le Moscou de 1917.
Oui.
Donc, je voulais juste voir par rapport à ça, si tu avais une actualité. Tu m'avais dit hein, que Révolté va sortir en poche très très bientôt.
Oui, Révolté, en fait, Révolté et Lumière sortent en poche en même temps. Lumière, c'est, tu vois, c'est l'édition collector là, que tu as mis avec les dorures et tout ça.
Et je vais mettre
Et Révolté,
Révolté là,
il
je le mets sur le chat.
et Révolté, je crois que tu l'avais mis même, le Lumière, en poche.
Oui, je l'ai mis, tout à
Et
fait.
Révolté. Ah oui, voilà, je l'ai retrouvé. Donc là, tu vois, il y a toutes les dorures, il est vraiment super beau. Et Révolté, il sort aussi en poche, ah bah voilà. Et il n'est pas collector, il est normal, mais par contre, ils ont fait un beau travail, je trouve, parce qu'ils ont gardé tout le dossier sur la Révolution russe à la fin, sur Maïakovski, sur
Super intéressant.
les russes avec des photos et tout ça que j'ai fait. Ils ont mis des extraits de presse. Donc, ils ont fait un bon travail, je trouve. Enfin, tu vois, ils ont, voilà, je trouve que là, pour le Courageau, ils ont bien bossé sur ces deux poches. Je
Je
suis
te
contente de
transmets
ce qu'ils ont.
une fois de plus hein, mon compagnon qui a vraiment voilà, s'est emparé de ce livre et qui est complètement tombé dedans et voilà, il a adoré hein, ça l'a
Oui,
passionné.
c'est vrai.
Ouais.
Ouais. Ouais, trop bien.
Donc la sortie poche le 3
Génial.
novembre, en même temps que Lumière.
Ouais, les deux sortent, ouais, les deux
C'est très
sortent
très
le 3
bientôt.
novembre.
Voilà, donc c'est quand même bien Bah, je me disais, ouais,
Pour
c'était
Noël.
l'occasion de le rappeler. Et en fait,
Ouais.
bah, du coup, dans cette dimension-là historique, bah, tu as aussi, du coup, depuis hein, le dernier vocal, bah, tu t'es lancée dans la série Jeanne, la fille du docteur Loiseau.
Ah, mais oui, on n'a pas parlé
Voilà,
de ma
non, on
petite
n'a pas. Voilà. Donc, dans le Paris des années 20, Jeanne
pareil.
sait
Ben,
déjà
ça...
qu'elle veut devenir médecin comme son père. Elle vit des aventures et mène des enquêtes en croisant de grandes figures historiques.
Exactement. Ouais. Attends, Oui, bah alors la petite bah Jeanne, c'est ça, c'est la sortie plus 8-12 ans. C'était vraiment là pour le coup, la première fois que. Voilà, que j'allais dans. Ça, c'est Carole Morel. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le travail de Carole Morel, qui est incroyable, qui fait plein de bandes dessinées. Tu la connais, Carole Morel?
Pas
Ou toi,
personnellement.
Christelle, ou pas? Elle a fait dernièrement, elle a fait beaucoup de bandes dessinées. Elle a fait Nelly Bly dernièrement en bande dessinée, justement sur une biographie romancée. C'est sur cette journaliste anglaise hyper courageuse qui est allée dans un asile. Un asile, enfin ça s'appelait un asile pour folles, et en fait, où justement, elle s'est rendue compte que c'était vraiment horrible le sort des femmes, et que c'était parfois juste des femmes qui souhaitaient être libres et qui se retrouvaient enfermées dans
Ouais,
ça. Enfin,
ouais.
et Carole Morel, elle fait un vrai beau travail. C'est elle qui avait fait l'adaptation de En attendant Beaujangle,
D'accord.
aussi, en bande dessinée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et c'est elle qui a fait
Là,
les
vous
couves de
vous
Jeanne
êtes
Loiseau, je comprends.
bien retrouvé sur ce projet-là, avec
Ouais,
Jeanne.
ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et donc, voilà. Donc là, effectivement, Jeanne, la fille du docteur Loiseau, c'est une série pour les 8-12 ans d'aventure, d'enquête, et qui a la particularité à la fois de donner voilà, la part belle à des filles qui veulent être médecins, qui veulent être ingénieurs, qui sont bricoleuses, voilà, qui donnent des modèles différents de filles, en fait, pour les lecteurs et les lectrices. Et à la fois, c'est des vraies enquêtes et des vraies aventures. On veut savoir la suite, enfin voilà. Et en même temps, il y a aussi des personnages qui ont vraiment existé, qui participent à l'aventure et qui sont au service de la fiction. Donc c'est plus le roman
Ça, c'est
biographique
fort.
où on...
Ça, c'est fort.
Et donc, c'est des personnages qui ont... Ouais, c'est ça. That's my girl, comme dirait l'autre. Et du coup, voilà, du coup, voilà, c'est aussi... des personnages historiques qui sont dans leur réalité au sens là où ils habitent, l'âge qu'ils ont, leur métier, etc. et qui viennent participer à une aventure imaginaire de Jeanne, en fait. Voilà. Ça c'est un peu le concept, on va dire, de la série. Donc dans le tome 1, il y a Kiki de Montparnasse qui est une femme incroyable des années 20, qui habitait à Montparnasse et Jeanne et sa famille habitent dans le 14e arrondissement de Paris. Et dans le tome 2, il y a Hélène Boucher qui les aide, qui était une aviatrice. Et elle a 15 ans en 1924 quand se passe l'histoire. Et elle faisait de la moto à cet âge-là. Et donc,
Wow.
elle va aider la famille d'Oiseau. Et on va la voir à moto. On va la voir. Voilà, elle participe avec son tempérament d'Hélène Boucher qui avait un grand tempérament, qui était très, très généreuse, très, très entière. Et le tome 3 que je viens de finir d'écrire, ça se passe avec Agatha Christie. Voilà.
Tadam.
il y a une trentaine d'années, en 1924, et qui parle très bien français, qui a vécu à Paris. En 1906, elle a passé un an à Paris, et donc j'imagine qu'elle est amie
Voilà.
avec la mère et l'oiseau.
Je trouve
Voilà.
ça très très fort hein, cette idée. Voilà, déjà de donner un contexte historique. Alors, je te connais, hein, tu as dû bien tout documenter hein, là sur cette période historique, mais d'aller pousser le concept jusqu'à se dire ben voilà, les personnages vont non seulement croiser la trajectoire de personnes historiques existantes, mais aussi qui vont contribuer à l'intrigue en fait.
Voilà, c'est ça, ils sont au service de la fiction,
Ah,
complètement.
c'est fort.
Ouais, et là, je m'autorise l'imaginaire, hein, c'est-à-dire que c'est là vraiment, mais ils sont quand même dans leur réalité, ils correspondent à ce qu'on sait ou ce que moi je peux savoir ou avoir interprété de leur tempérament et à l'endroit où ils vivent ou à l'endroit, voilà, d'amener aussi une information sur ces personnages-là, sur ces personnages qui ont vraiment existé, parce qu'ils racontent à un moment donné leur vie à la famille. Donc on en apprend aussi un petit peu sur Hélène Boucher ou sur Kiki de Montparnasse. Il y a Prévert qui apparaît dans le tome 1 aussi, avec les surréalistes rue du Château juste à côté de chez Jeanne à ce moment-là. Donc il y a Prévert qui apparaît. Enfin, c'est voilà, il y a un côté. Ça incarne aussi une époque, quoi, de mettre des personnages qui ont vraiment existé. Voilà, ouais.
Ça me rappelle un petit peu la façon dont tu avais parlé de Combien de pages jusqu'à la Lune, où tu t'étais énormément documenté hein, sur Katherine Johnson, afin de pouvoir vraiment t'approprier cette personnalité, et puis après te sentir cette liberté de dire, bon, ben voilà, il y a des moments, je vais combler les trous, quoi. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais que moi, je vais raconter, mais ce sera toujours cohérent par rapport à ce qu'on sait de la personne.
C'est ça. Avec la différence que dans le bio, quand c'est la vraie bio romancée sur Katherine Johnson, c'est vraiment la fiction qui est au service de Katherine Johnson. Et dans Jeanne, la fille du docteur Loiseau, c'est d'une certaine façon, c'est les personnages historiques qui sont au service de la fiction.
Oh,
Parce que
c'est
le point de
génial.
départ. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bah c'est vraiment, tu fais toutes les. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut parler de n'importe quel livre avec toi. On a toujours l'impression que la démarche, il y a quelque chose, il y a une sorte de fil directeur. On retrouve bien ta patte. Et en même temps, il n'y a aucune expérience exactement similaire à l'autre. Chaque fois, tu vas t'aventurer dans quelque chose d'un petit peu différent. Ce serait pas. Donc, t'es complète. Hein.
Chaque fois que je viens sur ta chaîne, là, tu vois, je prends plein de force et de confiance en moi, c'est bien.
Oh.
Du coup, quand je te parle, je me dis, bon, allez, Carole, continue, garde confiance en toi,
Ah bah non, mais attends,
avance,
là,
avance. On a besoin, hein, de ça parfois, on a quand même besoin, quand on écrit, d'avoir des gens qui te donnent confiance en toi, hein. C'est important, hein.
Ah bah en tout
Moi,
cas,
j'en
là,
ai
je
besoin.
peux t'assurer que ben, parmi les personnes qui sont présentes, je crois que tu as donné vraiment envie de découvrir les livres qui n'auraient pas déjà été lus. Voilà, là, on sent,
Ça fait super plaisir.
c'est très. Très communicative. Bah juste
Non,
j'en
mais c'est
profite pour te glisser une question parce que comme les Jeanne c'est une série avec plusieurs tomes, il y avait une question de Mary Lumie et Fanu. C'est dans une saga vous publiez les tomes 1 à 1 tout en continuant l'écriture des tomes suivants. A posteriori, en écrivant un nouveau tome, vous est-il déjà arrivé de regretter l'insertion de certains éléments, voire de personnages, ou au contraire de ne pas en avoir mis d'autres? Et est-ce que vous arrivez de vous rendre compte d'incohérence?
Alors, non, en fait, quand même, quand j'écris une série, j'implante toujours des choses. J'ai conscience d'implanter des choses, en fait, qui vont me permettre de tirer des fils, et c'est le truc assez agréable dans le fait d'écrire une série. Et toi, tu vois, même si là, il y a une fin à chaque tome par rapport à toi, quand tu fais la passe-miroir,
Oui.
où tu vois, voilà. Là, il y a une fin à chaque tome, mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir conscience à des moments d'implanter des trucs où je me dis, tiens, ça serait sympa de parler de ça sur un prochain tome. Tu vois, de faire des petits implants, quoi. Donc, du coup, j'ai pas de truc où je me dis, où je regrette ou quoi. Parce qu'en fait, il y a une espèce de liberté, t'implantes. Et puis, bah, soit tu t'en serviras, soit tu t'en serviras pas, mais souvent, ça, c'est un peu une envie de quelque chose à explorer,
Oui.
où tu vois, où tu te dis, tiens, c'est possible, tu vois, la fin du tome 2, la fin du tome 3, je commence vaguement à implanter que possiblement, il pourrait y avoir une petite histoire d'amour entre le papa de Jeanne, parce que la maman, elle est morte en donnant naissance à la dernière, à la petite fille, et la maîtresse de Marguerite. Et je me dis, tu vois, c'est juste un petit implant comme ça où tu dis, tiens, c'est possible. Et puis peut-être qu'on en restera là, mais peut-être que sur un tome,
Surtout,
je vais
là,
développer possiblement.
t'as des petites portes ouvertes que tu laisses, à toi de voir si tu souhaites les exploiter ou pas par la suite.
Oui, complètement. Ouais, c'est assez agréable en fait. Comme ça, puis tu te dis, bah tiens,
Ouais,
sur un
c'est vrai.
tome, ça va être ce personnage-là qui va être en avant, comme ils sont quatre frères et sœurs, plus le papa. Bah, tu te dis, tu n'as pas forcément les quatre personnages au premier plan tout le temps sur chaque tome. C'est comme dans une série télé, hein, c'est vraiment ce truc de se dire, il y a
Oui.
des personnages que tu perds à un moment donné, puis tu les retrouves, et tu es
Tout à
content de les
fait.
retrouver.
Tout à fait.
Et voilà, c'est vraiment cette idée-là pour moi. Le plaisir d'une série, il est là. Et par contre, il faut qu'effectivement, il y ait une vraie intrigue à part entière sur chaque tome pour que ça marche. Et qu'à chaque fois, c'est comme si tu écrivais un roman totalement. C'est ça qui est le challenge, en fait. Que c'est des personnages qui évoluent dans leurs liens, où tu implantes des choses, tu as envie d'en savoir plus sur certains trucs, tu as envie de développer certains trucs. Et à la fois, il faut que chaque tome corresponde comme un... Enfin,
Et
voilà,
c'est un
fonctionne comme
mini-roman
un...
qui pourrait se lire indépendamment un des autres,
Oui.
mais en même temps, comme il y a quand même une évolution de fond, c'est peut-être mieux quand même de lire dans l'ordre.
Voilà. C'est pas fa... et je
Pour
dans le
venir faire.
normalement voilà. Normalement dans l'idée, on peut lire dans l'ordre qu'on veut. Et sur le tome 3 justement avec Agatha Christie, tu vois, elles m'ont fait rajouter parce que j'avais pas forcément eu ce réflexe des petits un petit paragraphe où il fallait de dire oui de rappeler qu'elle veut être médecin Jeanne, de rappeler que sa sœur veut être ingénieure, enfin tu vois.
Oui.
Vraiment de se dire, n'oublions pas qu'on s'adresse à des lecteurs qui possiblement vont être
N'ont pas
attirés parce que
lu.
c'est agréable.
Oui, ils vont lire ce tome-là, pas
Voilà.
forcément les précédents. Donc,
Ouais.
voilà, de voir.
On rappelle des choses. On accepte l'idée de rappeler des petites choses.
Ah, c'est un petit
Voilà.
challenge quand
Ouais, voilà. En tout cas,
même.
ouais, bah là, il faut, ça y est, que je passe au tome 4. Donc, c'est la nouvelle étape. Oh, ils sont trop
Nous
gentils, en
allons
tout
te
cas.
soutenir
Ils sont trop gentils.
psychologiquement. Ah mais ici hein, sur le Discord,
Et merci à tous vraiment
il y
pour
a une bienveillance. J'ai jamais eu de problème de comportement. Hein, genre ici,
Ouais,
c'est fait
non,
pour
tout le monde est.
exemplaire.
J'allais dégaliser ma librairie.
Oui, bah, je vous remercie aussi hein, là pour votre présence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui
Non.
n'avaient pas pu venir aujourd'hui, donc pensez pour eux. Mais
Trop.
pour ceux qui ont pu être là, merci hein, pour votre
On
participation.
est toujours.
C'est vraiment agréable hein, de faire la rencontre dans ces conditions-là.
Ouais,
Et bon, je
non,
pense
trop
aussi que
trop
tu es
agréable.
très stimulante aussi quand on t'écoute, ça donne envie d'interagir
Bah,
avec toi. Hein. Je pense que ça joue aussi. Et
oui, bon,
est-ce
c'est oui,
que.
c'est grâce à tes questions.
Et juste, bah, si tu veux, pour terminer, bah, pour les projets en cours et à venir, je n'ai pas évoqué pour le moment, bah, c'est Rouge Estampe, hein, qui est ton autre projet de BD que tu as coécrit.
Oui, qui est que historique et qui est pour adultes et qui est un thriller historique pendant la Commune de Paris. Donc c'est vraiment une autre période, une période de révolution. Voilà. Donc là, c'est vraiment complètement, effectivement, autre chose. C'était plus de la, voilà, de la
Oui, tout à
roman
fait.
graphique, on va dire, historique. Voilà.
Voilà. Mais si ça faisait quand même
Exactement.
partie de ton actualité que la dernière fois, hein, voilà, c'était pas sorti,
Le
donc
roman
c'était le cas
graphique
quand même
historique.
d'en parler.
Là, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment quand tu dis ça, t'en prends des choses sur la Commune de Paris, sur le déroulement de la Commune de Paris, sur ce que les Parisiens ont vécu pendant cette période-là. Enfin, c'est vraiment très, très, très nourri historiquement. Et donc là, on est de nouveau sur la chanson. Oui, la Commune de Paris, il y a eu beaucoup de tabous sur la Commune de Paris. C'était un sujet qui a été tabou pendant des années. C'est une révolution sur laquelle on a vraiment mis un couvercle, hein, et dont on a petit à petit recommencé à parler. Et dont on fait l'histoire, mais ça reste un sujet très clivant et compliqué parfois à aborder encore, la Commune de Paris. Hein.
Ouais.
C'est pas simple comme période.
Mais c'est justement, c'est pour ça vraiment que je suis vraiment très très contente de pouvoir évoquer tous tes livres, c'est que tu vas vraiment aborder tout un tas d'époques historiques, c'est pas celles qu'on connaît le mieux en fait. Quand je dis historique, c'est aussi géographique.
Oui.
Voilà, on peut pas dire que tu surfes sur des vagues en disant tiens, ça marche bien en ce moment, il y a tout le monde qui en parle, donc je vais rajouter ma strate. Non, toi, tu vas aller te, voilà, aller explorer des choses qui sont justement un petit peu moins connues et tu vas les rendre accessibles, tu vas bien bien documenter et tu vas faire un bon travail, je trouve, à ce niveau-là d'immersion. Donc, c'est très enrichissant de te dire, donc voilà, lisez Carole Trébor. Voilà.
Mignon. J'adore.
Comme là, ça va faire une heure et demie. Je ne sais pas si tu avais
Oui,
d'autres
oui.
quelque chose que tu aurais voulu aborder ou si j'ai oublié une actualité que tu aurais voulu.
Bah écoute, non, là c'est génial, c'est
Là,
super. Là, je
non,
pense qu'on
j'avais
va.
pris des notes hein, de tout ce que tu m'avais dit, mais s'il y a un truc que j'ai oublié, que tu t'es dit, ah,
Voilà,
il y a une parution à venir que j'aurais oubliée, n'hésite pas à le préciser.
on a tout, je pense qu'on a tout abordé, les adaptations de BD, les BD, les nouveaux romans, les nouvelles sorties, Marussia. Donc je crois qu'on a vraiment réussi
Rien
à tout
oublié.
aborder.
Oui.
Aussi, je crois qu'on a avec le truc du chat, c'est vrai que c'est pratique. Je pense qu'on a répondu à peu près aux questions qu'il y avait sur le chat en même temps. Donc c'est trop bien. Je crois que c'est bon, hein. Je pense que
Bon. Mais du coup,
super.
Camille, nous allons t'écouter chanter à la carioca.
C'est la carioca alors? C'est ça? Non mais
Carioca.
vous n'avez pas eu assez de pluie dernièrement?
Ouais, mais là,
Moi, je veux bien, mais c'est à vos risques et périls.
Allez, c'est juste pour terminer, hein, le youpi.
Alors,
Voilà,
le mot de la
terminé, la beauté. Allez.
fin. Youpi, dansons la carioca.
Tu es merveilleuse.
Le challenge.
C'est bien parce que non seulement elle fait mes visuels, mais pour les prochains
Je m'en rappelle pas, moi.
gifs, Camille, tu me les fais aussi avec du son et de l'audio et de la chanson.
Je fais tout moi, hein. Je suis multitâche, je suis une grosse multitâche.
Ben, un grand, grand merci, Carole, hein, d'être venue à cette rencontre. Là, je pense que tu as fait beaucoup
Merci Carole, c'était super intéressant.
Ah bah génial. Non, mais merci à tous, c'était super agréable. Et puis merci Christelle, toujours. Hein, on reste
Ben,
fidèles. On reste fidèles l'une à l'autre. je te réinviterai encore et encore et
Bah
encore.
oui, tu sais que je serai là. Hein. Et puis voilà, bah, super. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis merci Christelle. Et puis de toute façon, viens, moi je vais essayer de venir te voir là quand tu viendras à Paris, là, à la librairie.
Oui.
Je vais
Si je me trompe pas, enfin, c'est le 24 novembre. Voilà.
Ouais, ou octobre, non? Ah non, en novembre.
Ah, novembre, novembre, parce
Oh,
que 24 octobre, c'est demain.
attends.
Comment te dire?
24 novembre? Tu y vas? Oui, c'est ça, la librairie ici. Ouais. Ouais,
Voilà,
bah,
tout à
écoute,
fait.
j'essaierai de passer de faire un bisou.
Eh ben, avec grand, grand plaisir.
Ok?
Du coup, merci à toi. Merci
Allez.
Camille pour la carioca. Merci à toutes les personnes hein, qui ont été présentes sur le chat, qui ont posé des questions, soit en direct, soit en différé. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de boulot à faire, du coup. C'était très reposant pour moi et j'étais spectatrice, c'était vraiment agréable. Et ben, rendez-vous pour une prochaine audio rencontre. Et Carole, hein, je te réinviterai à nouveau pour tes prochaines actualités. Voilà. Avec grand plaisir, je pense que ce
Oui,
sera toujours
bon.
avec beaucoup de joie.
Super.
Eh ben, gros
Super. Bon,
bisous
bah,
à tout le monde.
gros bisous à
Au
tous et à très vite. Et je
revoir.
me déconnecte, hein, donc je sais
Alors,
pas
pour te
comment.
déconnecter, excuse-moi. Pour te déconnecter, donc en dessous du vocal, tu as voix connectée, normalement en vert.
Ah
Et à
oui,
côté, tu as un petit
ok.
téléphone et une petite croix à côté. Si tu cliques
D'accord.
dessus, tu raccroches.
D'accord. Bon, bah, gros bisous à tous et à une prochaine.
Au
Ciao.
revoir. Au revoir à tout le monde.